Il est 18h à Niamey, 18h ici au studio Kalangou et partout au Niger. Nous sommes lundi 14 octobre 2019. Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Le journal en français, c'est tout de suite. Au sommaire de ce journal, 12%, c'est le taux d'exécution des travaux du barrage de Kandaji qui seront étalés sur 6 ans dans la région de Tillabéri. Déclaration faite vendredi par le directeur général de l'agence du barrage lors d'une visite du Premier ministre sur les chantiers. À suivre ses explications dans ce journal. Après l'échec des négociations avec la société en charge de l'extension de l'aérodrome de Dirkou, la population de Chimendour, village de cette commune rurale au nord d'Agadez, a observé samedi un sitting devant le siège de la société. Dans notre rubrique des questions juridiques de tous les lundis, nous parlerons de l'obligation de tout parent de déclarer son enfant à sa naissance. C'est dans la partie magazine de ce soir. Messieurs, dames, bienvenue au micro d'Allo Mariama Kenda. 5 gendarmes tués, une civile blessée d'une balle perdue, un véhicule endommagé et un autre calciné. C'est le bilan d'une attaque qui a visé samedi 12 octobre une unité du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à mission dans le département d'Abala, région de Tillabéri. Attaque perpétrée par des individus lourdement armés, affirme le maire de Sanam. L'attaque s'est produite vers 17h. Près d'Abaré, village relevant de la commune rurale de Sanam, département d'Abala, également zone frontalière avec le Mali. Contacté par le studio Kalangou, le maire de Sanam a déclaré qu'une poursuite a été engagée et plusieurs assaillants seraient blessés. Pour rappel, le Garci est une nouvelle unité spéciale de la gendarmerie nationale créée en 2018 pour la surveillance des frontières et lutter contre la grande criminalité. L'Organisation internationale pour la migration en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger a organisé la semaine dernière à Agadez une formation à l'intention de 17 officiers des forces de défense et de sécurité en poste à Dirkou et à Assamaka. L'afflux massif des migrants étrangers refoulés d'Algérie et de la Libye constitue une menace pour la santé des FDS aux frontières, explique Hassan Amidou, collaborateur à la direction de l'hygiène publique et de l'éducation à la santé au ministère de la santé publique du Niger, interrogé par Moussa Maman.
Vous savez, c'est à partir de la Libye et de l'Algérie que les migrants sont embarqués pour être rapatriés. Ils sont nombreux qui arrivent sur le territoire et en grande majorité, ils sont de nationalité étrangère. Aussi, dès lors qu'il y a un regroupement de plusieurs personnes, il est évident que le problème de santé est là. C'est pourquoi nous avons organisé cette rencontre pour sensibiliser et former les agents des forces de défense et de sécurité qui sont basés à la frontière pour qu'ils puissent s'occuper des migrants dès qu'ils arrivent, car ils sont les premiers à accueillir les migrants qui rentrent sur le territoire nigérien. Une maladie peut se transmettre d'une personne à une autre. Voilà la raison de cette formation, afin qu'ils puissent se protéger avant d'accueillir les migrants refoulés.
Les travaux du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri sont à un taux d'exécution de 12%, a déclaré vendredi le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji. Selon lui, ce taux est conforme au délai de 6 ans 2019-2025 prévu pour ce chantier. C'était à l'occasion d'une visite ce même vendredi du Premier ministre Brigitte Raffini dans la région pour s'enquérir de l'avancement de divers travaux en cours. Amadou Haruna est au micro d'Abdoulaye Mamoudou.
Le 26 mars dernier, le président de la République a procédé au lancement des travaux. Depuis lors, les travaux sont en cours. Le Premier ministre est venu pour voir l'état d'avancement de ces travaux. C'est quand même un ouvrage que tous les Nigériens attendent depuis longtemps. sur lequel on compte beaucoup d'espoir, un ouvrage qui va permettre de sauvegarder l'écosystème du fleuve Niger, d'améliorer la sécurité alimentaire, qui va permettre d'accroître notre sécurité en matière énergétique. Nous avons entamé la première phase du programme, puisqu'il faut dévier le fleuve, il fallait faire des bâtards rouges pour pouvoir barrer le fleuve et permettre à l'entreprise de travailler. Une fois que les fondations hautes seront sorties, maintenant on va faire partir ces bâtards rouges. En deuxième phase, faire un autre bâtard rouge de l'autre côté pour que l'entreprise puisse travailler sur l'autre partie. Aujourd'hui, on peut dire que les travaux sont à un taux d'exécution d'à peu près 12%. C'est un peu conforme au télécontractuel. Nous fondons l'espoir que dans quelques mois, les travaux vont prendre leur envol. On va être dans la phase vraiment assez dynamique d'avancement de ces travaux.
Le Premier ministre Brigitte Raffini a aussi visité les chantiers de la ville de Tillabéri réalisés dans le cadre de la fête tournante de la proclamation de la République du 18 décembre, Tillabéri Tchandalo. Malgré les petits obstacles rencontrés dans l'exécution de ces travaux, le Premier ministre assure qu'on aura une ville de Tillabéri où il fera très bon vivre. Brigitte Raffini est au micro d'Abdoulaye Mamoudou.
Nous allons avoir une ville de Tillabéri transformée totalement. Déjà, on ne la reconnaît plus. Elle est en chantier, mais on voit déjà se dessiner une ville où il fera très bon vivre. Par exemple, la case présidentielle, c'est un palais présidentiel plutôt. Nous avons vu les voiries qui sont en train de s'achever. Nous avons vu les autres infrastructures d'accueil, d'hébergement qui sont en très bonne voie. Nous avons été à l'aéroport également. Tillabéri sera doté d'un aéroport avec une piste d'atterrissage de 2100 mètres. Et tous les chantiers avancent. Il y a quelques petits obstacles par-ci par-là, mais nous avons eu des assurances de ce que ces obstacles seront surmontés. En tout cas, des dispositions seront prises pour que ces chantiers soient livrés avant la fête du 18 décembre.
À Chimendour, village de la commune rurale de Dirkou, au nord d'Agadez, la population était en sitting samedi pour manifester son mécontentement après l'échec des négociations avec la société en charge de l'extension de l'aérodrome de Dirkou. Pour rappel, les travaux de concassage de pierres dégagent de la poussière. C'est pourquoi la population demande que l'usine soit déplacée. Écoutons le délégué Abba Lelogo, joint au téléphone par Habibou Garba.
On a repris le dialogue. Ils nous ont dit qu'ils vont perforer un forage à l'est du village. Ils vont planter des arbres. Ils vont construire des classes. Ils vont, je sais pas, garnir notre district sanitaire. Donc, ce que eux, ils veulent, vraiment, ça ne fait pas aller. Parce que nous, notre seul souci, nous les avons dit, tout simplement, de déplacer la machine de l'est vers l'ouest, il y aura plus de poussière. Et ce qui nous a fait sortir, même, on était en pleine négociation. Quand un message du commandant de zone numéro 8 de Dirkou a informé le représentant des maires que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, et il a autorisé la réouverture. Et ils ne veulent pas rentrer dans les autres détails. Voilà les messages qui nous est parvenu. C'est le forcing. Donc, qu'on veut ou pas, ils vont autoriser ce qui est prouvé, donc ça porte plus. Et ce qui a fait que nous sommes mobilisés pour sortir aujourd'hui.
Le ministre de la Défense était samedi après-midi à Chimendour où il a rencontré les représentants de la population issue de la société. Il a été décidé à la fin de la réunion de délocaliser l'usine à l'ouest de la ville, selon Abba Lelogo, un délégué de la population. Par mesure d'économie, le ministère nigérien de l'éducation primaire a opté l'an dernier pour le regroupement des écoles primaires à faible effectif. Cependant, à Gaya commune, région de Dosso, la nécessité ne s'impose pas, a déclaré Moudi Toudou, inspecteur des enseignements primaires de Gaya au micro de Fadel Allou.
Avant, tout le territoire de Gaya, c'était une seule école. Aujourd'hui, c'est devenu 500 écoles. Parce que de Gaya, maintenant, on est parti à Yelou, on a créé à Tounouga, à Tanda, ainsi de suite. Et maintenant, à l'intérieur de Yelou, on a créé au niveau de chaque village. Et à l'intérieur du village, on a créé à l'intérieur donc, des hameaux, ainsi de suite. Donc, cela veut dire qu'on peut regrouper pour économiser non seulement un personnel enseignant, parce que c'est coûteux. On ne va pas amener un enseignant juste pour à peine 10 élèves, alors que de l'autre côté, il y a 75 élèves qui attendent. Donc, il faut amener l'enseignant là où il sera plus utilisé. Et c'est plus bénéfique pour l'État. Puis l'année dernière, nous, on nous a demandé de faire des propositions. Alors, ça, c'est par commune, par instruction. À ce qui nous concerne, nous, vraiment, nous n'avons pas cette situation. Peut-être c'est parce que nous sommes dans une commune urbaine. Alors, il n'y a pas assez de difficultés par rapport aux effectifs.
Étudier les systèmes de santé par des méthodes qualitatives et un appui à des formations ancrées dans la réalité, c'est le thème d'une session de formation en socio-anthropologie de la santé ouverte ce matin à Niamey. Cette rencontre est organisée par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local. Elle rassemble des agents de santé et des chercheurs de plusieurs pays autour des innovations locales dans les systèmes de santé minés par les dysfonctionnements. Docteur Moha, directeur de l'ASTEL au micro d'Asmana China.
C'est un outil de transfert de connaissances afin que les résultats des recherches soient utilisés par les décideurs. C'est pourquoi tous les deux ans, nous rassemblons les agents de santé et les chercheurs du Bénin et du Niger, parfois même du Mali, du Burkina, pour organiser une session. Les chercheurs vont dans un premier temps présenter les résultats de leurs travaux, faire des formations sur des méthodologies aux auditeurs. Ensuite, nous allons ensemble monter une recherche, une enquête, aller conduire, leur montrer sur le plan pratique comment on conduit la recherche. Et enfin, comme cette année, cette session est en lien avec ce que nous appelons les innovations locales. Vous savez, les systèmes de santé en Afrique sont minés de dysfonctionnements. Mais nous avons constaté dans nos recherches que bon gré, mal gré, il y a des agents de santé qui, malgré l'insuffisance du matériel, l'insuffisance de tous les maux du système de santé, qui font fonctionner la maison. C'est ce que nous appelons les innovateurs. Nous allons essayer de regarder quelles sont les innovations, les étudier et après les mettre en réseau.
La partie magazine de ce journal a à présent la déclaration de naissance est prévue par plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux qui garantissent les droits des enfants. Elle est l'un des droits fondamentaux de l'enfant autour duquel se greffe l'ensemble des autres droits de l'enfant, notamment le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, aux loisirs et d'autres. Tout enfant qui n'est pas déclaré à sa naissance risque de devenir un apatride, c'est-à-dire une personne dépourvue de toute nationalité et qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. Sidi Kou Moussa, président de la coalition des organisations des droits de l'enfant, joint au téléphone par Barkissa Amidou.
Tout parent a l'obligation de déclarer son enfant à sa naissance sous peine de le priver de ses droits les plus fondamentaux. Monsieur Sidi Kou Moussa, président de la coalition des organisations des droits de l'enfant, nous donne des précisions sur cette question.
C'est un des premiers droits autour desquels se greffe l'ensemble des autres droits inhérents à l'enfant. C'est également ce droit qui donne une identité à l'enfant, c'est-à-dire qu'il lui reconnaît comme étant une entité à part entière d'un État.
Quels sont les textes juridiques qui régissent ce domaine?
C'est la Constitution, c'est également la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est surtout les instruments juridiques internationaux auxquels le Niger est allé, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et l'ensemble de ces protocoles additionnels.
Aujourd'hui, avec l'insécurité qui règne dans la sous-rejoindre la question de l'enregistrement des naissances se pose avec acuité. Quel impact cette situation peut avoir sur la déclaration ou l'identification des enfants?
La situation ne sera pas reluisante pour bon nombre d'enfants qui vont voir leurs droits fondamentaux violés et qui risquent aussi de les exposer à ce qu'on appelle l'apatridie.
Qu'est-ce que l'apatridie?
L'apatridie, c'est des personnes qui sont là, qui n'ont aucune nationalité. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des ressortissants du Cameroun ou du Tchad ou du Nigeria qui peuvent se retrouver sur notre territoire et que quand les enfants ne sont pas, par exemple, déclarés à naissance, ça pose problème. Ils ne sont ni déclarés au Niger, encore moins dans leur pays d'origine. Ça pose le problème de l'apatridie.
Et quels sont leurs droits qui seront violés?
Ils ne sont attachés à aucune nationalité. C'est-à-dire, nulle part, ils n'ont été pris en compte dans les planifications et les budgétisations des différents États. Quelque part, quand on est né sur un territoire, les États ont l'obligation de créer un environnement sécurisé pour l'enfant, de créer les conditions pour que cet enfant-là puisse aussi avoir accès à l'éducation, aux soins de santé, aux loisirs, etc., etc. Mais quand on est apatride, ça veut dire qu'on ne sait pas vers qui il faut aller revendiquer ses droits. Voilà.
Donc la question de nationalité se pose?
Absolument, parce que la nationalité renvoie d'abord à la question d'une identité. Il faut qu'on soit qui vous êtes, où est-ce que vous êtes né pour prétendre à une nationalité.
Où est-ce qu'il faut déclarer l'enfant?
En principe, c'est l'état civil. Aujourd'hui, au niveau par exemple des chefs-lieux d'état civil, on les déclare. Au niveau des maternités également. Maintenant, même au niveau des tribunaux, il y a ce qu'on appelle les séances foraines, où effectivement, de manière périodique, certains partenaires peuvent aider l'État à travers les juridictions à faire des tournées au niveau communautaire pour recenser les enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance.
Est-ce qu'il y a des sanctions réservées aux parents qui n'ont pas déclaré leur enfant?
Avec la réforme de l'état civil, les parents ont jusqu'à un ou deux mois après la naissance de leur enfant de pouvoir quand même les déclarer. C'est gratuit, passer le délai, il y a de l'argent à payer.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.